France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors attention ce soir, si vous regardez la télé et aimez la politique, il y a un piège. Quel programme parle de la campagne? Est-ce que c'est Mort d'un pourri, Kick-Ass, présidentiel 2017, le grand débat, ou Cauchemar en cuisine? Impensable de s'y retrouver, donc on vous donne un indice, il y a présidentiel et 2017, on est très Sherlock Holmes en ce moment. Les informés de France Info se mettent donc à l'heure du premier débat de cette présidentielle, une première dans l'histoire des élections en France, puisque jamais les candidats les mieux placés au premier tour n'avaient débattu ensemble si proche du scrutin. Oui, on aurait voulu faire une spéciale Chuck Berry, mais l'info est ce qu'elle est. En tout cas, pour en parler ce soir, les informés de France Info reçoivent Michel Urvois d'Ouest France. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également Yael Gauze, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Chef du service politique de France Info. François Dorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et également le journaliste Claude Asklovitch, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle votre dernier livre, Comment se dire adieu. Alors ce n'est pas une biographie de Françoise Hardy, c'est sur la gauche française hein, et c'est publié chez Lattès. Mais en début d'émission, nous recevons Christian Delporte. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes historien spécialiste de l'histoire des médias, de l'image et de la communication politique. Alors forcément, premier débat avec tous les candidats au premier tour, c'est presque historique. En 1974, était organisé pour la première fois un débat entre les deux candidats qualifiés pour le second tour. C'était Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. D'après vous, est-ce qu'on est, avec le débat de ce soir, dans le même genre d'événement que celui de 1974
Oui, sans doute. Sans doute parce qu'il y a, ce qui n'était pas le cas à l'époque, même si on le croyait, il y a une grande incertitude sur l'issue de l'élection. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord qu'on est loin du deuxième tour encore. On est à 34 jours.
Voilà, oui.
Donc les avis ne sont pas encore bien ancrés. Et cette année particulièrement, il se trouve que les socles électoraux sont très fragiles. Donc ça donne à ce débat une importance considérable qu'on pourra mesurer à l'audience que réalisera l'émission.
Juste une chose, Christian Delporte, pourquoi jusqu'à présent, on c'était pas organisé? C'était les candidats qui ne voulaient pas? C'était les chaînes qui se disaient, tiens, ça va embêter tout le monde? Pourquoi jusqu'à présent?
Au moins pour deux raisons. D'abord, on n'avait pas l'expérience des primaires.
D'accord. C'est ça qui a apporté véritablement.
Ouais. Voilà. Et puis également, vous l'avez dit, les candidats ne voulaient pas. Et notamment les présidents sortants ne le souhaitaient pas, ou les premiers ministres sortants ne le souhaitaient pas. Parce que forcément, ça banalise leur candidature, ça les met au même niveau que les autres. Et ça, ils ne le souhaitaient pas.
Alors Yael Gauze, est-ce que ça a été difficile à organiser, justement, ce premier débat? Il y en a deux autres qui vont suivre, mais ce premier débat.
Comme disait Christian, l'expérience des primaires fait que ça a été plutôt facile. Il y a une envie, il y a un engouement, les chaînes ont envie. On a vu que ça faisait de l'audience, de très fortes audiences. La finale Fillon-Juppé de la primaire à droite, c'était quand même plus de 8 millions de téléspectateurs.
Ouais.
Quasiment aussi bien qu'un match de l'équipe de France en foot en quart de finale d'un euro. Donc franchement, là, honnêtement...
Avec moins de suspense pour le résultat,
peut-être. Donc effectivement, il y a évidemment l'enjeu de l'audience. Et puis, ça y est, on est rodé à ça. Depuis septembre, on vit au rythme de ces débats qui jalonnent la campagne. Avec en plus, à chaque fois, un effet surprise. C'est qu'on a les sondages qui disent des choses. Et puis, vient le débat et patatras. Le favori qu'on croyait deuxième, troisième, finit dernier, et ainsi de suite. Fillon et Hamon ont émergé grâce à la série de débats télévisés. Ils ont crevé l'écran à ce moment-là et se sont imposés dans le vote des primaires.
Michel, c'est ça. C'est vrai que les primaires, on a vu que ça faisait de l'audience. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. Il y avait dans la tête de beaucoup de dirigeants de chaînes de se dire, tiens, on pourrait peut-être faire des débats avant. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Christian Delporte, c'est que jusqu'à présent, on avait la plupart du temps un président qui se représentait. C'était la peur, finalement, d'être confronté avec les autres.
C'était la peur, c'était le refus de descendre dans l'arène, c'était une manière d'essayer de garder sa présidentialité et de rester au-dessus du lot. Cette fois-ci, il n'y a pas de président sortant, donc les choses sont aussi plus faciles, outre le fait, je suis bien d'accord, que la primaire a installé le débat télévisuel dans la campagne.
Une remarque intéressante par rapport au débat, ce que disait mon confrère, c'est que Chirac a refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen en 2002,
exactement.
On s'en souvient tous.
Tour.
Et là, on a Marine Le Pen avant un premier tour. Donc ça, c'est historique.
Et cette égalité-là, elle n'est pas neutre, puisqu'elle met sur scène, en scène, parce qu'il y a aussi un côté spectacle dans ces confrontations, des gens qui, jusque-là, étaient privés de ce
Alors,
débat.
Alors, Klaus Kovic, pour vous, ce genre d'exercice, c'est quoi? C'est un spectacle ou un exercice citoyen, finalement, auquel on va assister?
Un leurre
Une défaite du journalisme. Le travail du
pourquoi vous dites défaite du journalisme ?
Parce que le travail du journalisme, en général, est d'aller aussi loin que possible dans la vérité des programmes des candidats, éventuellement dans la vérité des personnages, de la psychologie des candidats, éventuellement dans ce qu'ils cachent. Là, on est dans autre chose. La comparaison avec les primaires est très intéressante, et c'est pour ça que c'est un leurre. Qu'est-ce que la primaire, de droite ou de gauche ? C'est le moment où une fraction du pays, un camp politique, la gauche, enfin les socialistes, ou la droite, choisit la personne qui lui ressemblera le mieux. C'est un choix identitaire, au sens le plus profond, peut-être le plus noble du terme. Pas étonnant que Hamon, qui ressemble le plus à ce qu'on imagine être la gauche, l'ait emporté. Pas étonnant que Fillon, qui ressemblait le plus à ce qu'on imaginait être la droite à ce moment-là, l'ait emporté. Là, on n'est pas du tout dans la même épure. On n'est pas en train de choisir quelqu'un qui va ressembler à une portion du pays. Donc, ce n'est pas la même chose. On choisit théoriquement la personne qui va guider le pays pendant 5 ans.
C'est ça,
donc, retranscrire le phénomène de la primaire, qui est un phénomène familial, à un débat présidentiel, est une horreur. Ce n'est pas à M. Hamon d'être le contradicteur de M. Macron ou à Mme Le Pen d'être la contradictrice de Marine Le Pen. Ce devrait être à nous, les médiateurs entre la politique et les citoyens, de faire le boulot.
Il y a beaucoup d'émissions qui ont répondu à ça depuis 6 mois, un très très grand nombre d'émissions, et il y en a encore cette semaine et pendant toute la campagne.
Et sur cette chaîne, c'est ça s'appelait dossier de candidature,
exactement,
une fois par semaine, absolument, une journée complète sur un candidat.
Exactement, donc ça c'est le boulot.
Mais regardons l'enthousiasme qui est censé être le nôtre. Personne ne dit que tu n'as pas fait le travail, mais là le vrai travail va être fait, paraît-il, c'est ce qu'on nous dit.
La défaite des journalistes, je veux bien qu'il y ait défaite des journalistes, mais c'est le public qui décide.
Du journalisme.
C'est le public qui décide. Le public, lui, il voulait les voir débattre entre eux. Entre eux, effectivement, dans le même dispositif que celui qui était celle de la primaire.
On va continuer à en parler dans un instant de ce débat. L'info à 20h10, Pierrick Bonhomme.
Le groupe Bouygues devra payer près de 30 000 euros d'amende pour travail dissimulé sur le chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche. Condamnation du numéro 1 français du BTP en appel. Selon France Bleu Normandie, Bouygues Travaux Publics et 4 autres sociétés sont accusées d'avoir eu recours à 460 salariés polonais et roumains sans les avoir déclarés entre 2008 et 2012. Après François Fillon, son ancien suppléant Marc Joulot sera prochainement convoqué par un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Il a employé Pénélope Fillon de 2002 à 2007 en tant que député de la Sarthe. La justice le soupçonne d'avoir versé des salaires à la femme du candidat de la droite pour un emploi présumé fictif. Angela Merkel menace les responsables turcs d'interdiction de meetings électoraux. Les comparaisons avec les méthodes nazies doivent cesser, prévient la chancelière allemande. Ces dernières heures, le président turc Recep Tayyip Erdogan a associé à plusieurs reprises Merkel au nazisme. Les armes se sont tues ce soir dans l'est de Damas après une journée de combats, représailles des troupes du régime de Bachar al-Assad après une attaque surprise des insurgés liés à Al-Qaïda hier à l'intérieur de la capitale syrienne. Le RC Toulon a officialisé tout à l'heure le départ du manager Mike Ford à la fin de la saison. Il sera remplacé par Fabien Galthié, sans club depuis qu'il a été écarté de Montpellier en décembre 2014. Le RCT précise simplement que Ford souhaite s'engager dans un autre projet à l'été prochain.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce premier débat qui se déroulera à partir de 21h entre les principaux candidats à la présidentielle. Christian Delporte, donc historien des médias, on compare souvent, quand il y a des débats en politique en France, aux États-Unis. Est-ce que pour vous, c'est la même chose, les débats américains, des débats français ?
Eh bien, il y a d'abord une tradition de débat à la française, qui est le face-à-face. C'est comme ça depuis les années 60. Le tout premier face-à-face ne faisait pas s'affronter deux candidats à la présidentielle, mais deux supporters de liste aux législatives de 62. Il y avait d'un côté Debré et de l'autre côté Mollet. Et d'ailleurs, le terme de débat à la française, c'est une expression qui avait été inventée par Giscard après le débat 74. Là, effectivement, c'est nouveau. Ce débat avec plusieurs candidats, avec des journalistes qui posent des questions. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est combien le débat va être haché par des réponses qui ne doivent pas excéder 2 minutes.
On l'a vu pendant les primaires, ça c'était la règle déjà. Voilà. Certains candidats, même ici à France Info, on se souvient, on avait reçu Benoît Hamon après le premier débat qui s'était plaint de ça en fait.
Et même sur la sélection des candidats, on est à l'américaine parce qu'aux États-Unis, on peuvent monter sur l'estrade les candidats qui obtiennent dans les sondages 15%. Nous, on est allé un tout petit peu en dessous, parce que sinon, on se privait de Mélenchon et Hamon.
Voilà. Alors, justement, François Orcival, pour vous, il y a eu, certains journalistes disent aujourd'hui, avec ce débat, ce soir, la campagne va vraiment commencer. Est-ce que c'est vrai pour vous?
Ah oui, naturellement, c'est
vrai. Le coup de départ?
Naturellement, c'est vrai. Parce que ils vont tous faire en sorte de se faire entendre sur le contenu de leur projet. On va les voir physiquement entre eux, déjà avec le stress qu'ils ont accumulé. Bien sûr. Bon. L'expérience ou pas l'expérience, parce qu'évidemment, il y en a deux qui ont l'expérience. C'est Hamon, primaire de la gauche, et Fillon, primaire de la droite. Mmh. Donc, ils savent comment ça marche. Mais il n'empêche que ce qu'ils veulent, c'est se mettre en valeur, pas seulement physiquement, mais aussi à travers leur projet. Ce qui, jusqu'à présent, a été étouffé par une campagne les plus folles qu'on ait jamais eues.
Oui, Michel Leroy, c'est vrai qu'on avait vu pendant les primaires, finalement, des candidats qui nous parlaient véritablement des programmes. Il y a eu des petites piques, mais là où on peut se poser la question à propos des piques, c'est que finalement, à gauche comme à droite, ce sont des gens qui se connaissaient par cœur. C'était presque du même parti, notamment à droite. Donc, voilà, ils n'allaient pas s'envoyer des piques. Là, on sait que ce soir, dans la disposition, par exemple, Jean-Luc Mélenchon est à côté de Marine Le Pen. Voilà. On sent que ça peut être un peu tendu.
Ils se connaissent un peu moins, effectivement, dans ce genre de confrontation. Il y en a même qui ne s'y sont jamais livrés. Je pense à Emmanuel Macron. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on va un petit peu les découvrir. Mais c'est intéressant, sous deux angles, me semble-t-il. C'est le côté présidentialité. Qui, j'imagine, le mieux à l'Élysée pour affronter les grandes questions, les grandes solidarités, la paix, etc. Et puis, deuxièmement, les projets. Parce que, contrairement à ce que dit Claude Haskalovitch, et je m'inscris complètement en faux, il n'y a pas de défaite, il y a peut-être une défaite du journalisme sur tel ou tel plateau de télé, mais enfin, tous les jours, on fait des choses sur les projets, on fait des comparaisons, on fait des entretiens. Je parle de West France, le journal où je travaille, et je ne peux pas laisser dire qu'il y a ça. Bon, voilà.
Alors, Claude Haskalovitch, je réponds.
Il n'a pas voulu dire ça.
Non, c'est très important. Je réinsiste. Dire que la campagne commence aujourd'hui, alors que West France, par exemple, a fait un travail de fond sur les projets, c'est la défaite du journalisme. Pardon, François Dorcival. Je ne dis pas du tout que vous n'avez pas travaillé, de la même manière que j'ai dit à Yael Gauss que Yael a travaillé. Mais considérer que la véritable campagne commence aujourd'hui, quand ils sont en randonnion, comme sur l'étal d'un marché, avec la possibilité de parler dans un temps défini, formaté dans une émission de spectacle, avec tous les a priori qu'on peut avoir, ça c'est une défaite du journalisme. Je ne dis pas que le journaliste n'a pas travaillé, nos confrères du Canard Enchaîné qui ont renversé la campagne, notamment à droite, ont travaillé. Mais considérer que la campagne, le choix démocratique des Français, se fait sur l'émission que je vais regarder ce soir comme nous tous, eh bien ça c'est une défaite du journalisme.
J'ai une position médiane d'arbitre entre vous deux, entre Michel et Claude.
Allez-y,
la position médiane, c'est que pour moi c'est pas un reset. Loin de là. Il y a déjà une empreinte rétinienne qui a commencé depuis août, depuis le début de la primaire de droite, et même la candidature de Benoît Hamon le 16 août. Donc, on a commencé à voir, ça a commencé à imprégner. Marine Le Pen, elle faisait 4 millions de téléspectateurs, ou quasiment 4 millions, sur France 2, il y a 15 jours, dans l'émission politique. Donc, il y a déjà une trace, il y a déjà quelque chose qui est rentré chez les Français. Mais là, ils vont pouvoir les comparer en direct.
Ben oui,
C'est ça qui est inédit. Comme des légumes
au marché qui peuvent parler 2 minutes maximum. On est chez les fous.
Alors justement, Christian, je faisais tout à l'heure une comparaison, Claude Haskalovitch. Je faisais une comparaison avec les États-Unis et la France. On dit souvent aux États-Unis, les Américains sont finalement plus imprégnés de cette culture du show, qui était dénoncée tout à l'heure, du spectacle, ce qui fait que de temps en temps, les politiques français ont des très longues phrases et ils ne comprennent pas encore la synthétiser. Est-ce que, pour vous, on est en train de changer dans cette optique-là?
Mais pourquoi faudrait-il la synthétiser? Je veux dire que ce qui me choque dans une réponse de 2 minutes, c'est qu'il n'y a absolument aucun argumentaire possible, aucune argumentation développée. Ce que l'on reproche aux hommes politiques aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de projet, de ne pas avoir de vision. Et on les contraint à répondre en 2 minutes, c'est-à-dire en résumant leurs pensées, peut-être par une formule, peut-être par une petite phrase. Et ce sont ces petites phrases-là qui tourneront ensuite en boucle sur les chaînes de télévision.
Claude Haskalovitch.
Pour poursuivre, quand on est forcé de parler sous forme de slogan, on ne parle qu'à son camp. Est-ce que Benoît Hamon parlera à l'ensemble des Français ou parlera à l'électorat socialiste et à l'électorat socialiste un peu plus à gauche parce qu'il est à la dispute avec Mélenchon. À qui est-ce que je peux parler? C'est l'élection présidentielle, la seule élection qui nous reste dans cette constitution de la Ve République qui a éradiqué toute la culture politique et la culture de débat en France. Et on me la transforme en un show où le candidat, quel qu'il soit, Macron, Mélenchon, et j'espère me tromper, Le Pen, ne peut parler qu'à ceux qui sont directement de sa famille.
Alors là, je suis d'accord avec Claude.
C'est magnifique, cet amour.
Parce que en plus, cette formule du slogan, on sait à qui elle profite. Mmh. C'est-à-dire, elle profite à ceux qui produisent le moins de réflexion, à ceux qui sont le moins dans la complexité des choses. Or, le débat politique, il est compliqué. Les problèmes qu'on a à résoudre, ils sont compliqués. Et donc, les réduire à des slogans, ça me paraît extrêmement dangereux.
Deuxième chose, ce pauvre débat TF1 n'est pas responsable. Il y a cinq ans, on a élu un président sur mon seul adversaire, c'est la finance. Là, si Amon est élu, on le lira sur il y a des candidats de l'argent. Voilà. Et avant, c'était travailler plus pour gagner plus. C'est-à-dire que les slogans imbéciles ont déjà fait dans notre narration.
Je suis en désaccord tant avec Claude qu'avec Michel. Mon propos est très simple. Vous faites un éditorial à la radio de combien de minutes? En général, ça ne franchit pas les 2 minutes. Oui. Et c'est un éditorial. Mmh. C'est-à-dire que vous exprimez une idée et vous la structurez. Mmh. Eh bien, le moins qu'on puisse demander à un homme politique, c'est d'être ou une femme, d'être capable de le faire.
Pour vous, c'est un bel exercice, ça veut dire.
Mais c'est évident que c'est un exercice. Et c'est un exercice qui est exigé par le public parce que il veut savoir comment il s'y prenne.
Et ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, François.
Mon dernier mot, c'est pour dire que oui, on retiendra de leurs propos une phrase ou quelques phrases. Enfin, l'histoire des petites phrases, vous n'allez pas la découvrir ce soir.
Ça aurait pu être pire quand même, parce que le droit d'interpellation du candidat, il pouvait arriver dès les premières secondes. Au départ, il y a une négociation très importante entre les émissaires des candidats et TF1, et c'est au bout d'une minute trente seulement. Hein.
Allez, je voudrais remercier Christian Delporte. Merci beaucoup d'être passé, historien spécialiste de l'histoire des médias. Et donc, en ce moment, vous avez beaucoup de travail, c'est normal. Hein, on découvre plein de choses comme ça. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux Informés de France Info, l'info à 20h20. Justement, c'est Pierrick Bonneau.
La date est fixée. Theresa May invoquera l'article 50 du traité de Lisbonne dans moins de 10 jours, le 29 mars. La première ministre britannique écrira à l'Union européenne pour annoncer formellement la volonté du Royaume-Uni de sortir. Cette notification déclenchera un compte à rebours de 2 ans pour trouver un accord sur le Brexit. Ce sera le premier procès d'une grande banque jugée pour fraude fiscale, en tout cas en France. Après 5 ans d'instruction, le groupe suisse UBS, renvoyé avec sa filiale française devant le tribunal correctionnel. UBS est soupçonné d'avoir mis en place un vaste système de fraude fiscale en France en démarchant illégalement une riche clientèle entre 2004 et 2012. Les démineurs sont intervenus au cours de la soirée dans le Vaucluse après une interpellation. 5 kilos d'explosifs retrouvés par les gendarmes au domicile d'un jeune homme dans la ville de Apt, tout près de 2 écoles primaires. Les 2 établissements et tout le quartier ont été évacués. Il y a 4 mois, le suspect en question s'était déjà débarrassé d'une fausse ceinture d'explosifs. Bill Gates est toujours l'homme le plus riche du monde, selon le classement du magazine américain Forbes. Avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards de dollars, le cofondateur de Microsoft arrive à la première place pour la 4e année d'affilée. Le premier français, c'est le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault. Il passe de la 14e à la 11e place avec 41 milliards de dollars. Arnault devance désormais Liliane Bettencourt. Et puis la mort d'une grande figure de la danse contemporaine, la chorégraphe américaine Trisha Brown. Elle avait 80 ans.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir le journaliste Claude Askolovitch, Michel Urvois de Ouest France, Yael Gauze, chef du service politique de France Info et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Forcément, ce soir, nous avons hésité à confier la présentation des informés de France Info à Jacques Vendroux, tant cette émission de pré-débat ressemble à une émission sportive, tactique, classement, les forces et les faiblesses de chaque candidat, et cette expression que nous employons pour la première fois dans cette émission, le match dans le match, en fait. Le Pen contre Macron, Fillon contre Macron, Hamon contre Macron, mais en fait, il y a combien de candidats qui s'appellent Macron? On ne sait plus. En fait, chacun devra se distinguer et à gauche au week-end, chacun a montré ses forces pour être le champion de son camp. En premier, Jean-Luc Mélenchon qui a réuni ses partisans entre République et Bastille à Paris. Jean-Luc Mélenchon.
Si tant de gens se sont rassemblés aujourd'hui, c'est qu'ils savent. Ils savent combien l'heure est grave pour leur pays. Entre l'extrême droite qui voudrait la nation ethnique et les serviteurs de l'argent roi qui n'en finissent plus de vouloir détruire l'État et les services publics.
Voilà, ça c'était Jean-Luc Mélenchon, place de la République à Paris. Et à quelques stations de métro de là, eh bien, il y avait Benoît Hamon, plus gauche indoor, on peut dire ça, à Paris-Bercy, qui a remobilisé ses troupes, Benoît Hamon.
Vous êtes chômeur ? Vous êtes chômeur ? Créez votre entreprise ! Vous êtes pauvre ? Devenez milliardaire ! Vous n'avez qu'un t-shirt ? Allez vous acheter un costume, diable ! Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection.
Voilà, c'était Benoît Hamon, donc à Bercy, Kloaskovitch, Hamon-Mélenchon. Est-ce que c'est un des matchs dans le match de ce soir ? On sait que Jean-Luc Mélenchon, lui, aimerait passer devant Benoît Hamon, le Parti Socialiste. Est-ce que c'est... On va le voir, justement, cette confrontation ?
Pour l'instant, ce que j'ai entendu, c'était un match entre Hamon et Raymond Barre, ouais. Qui, le premier, bien avant Macron, avait dit que les chômeurs devaient créer leurs entreprises. Il ne faudrait pas s'occuper de politique quand on vieillit. On a trop de mémoire.
Mais on est journaliste.
C'est très compliqué. Très, très compliqué. L'alliance naturelle était celle de Hamon et Mélenchon. Il y a un spectre dans ce pays, le spectre d'une gauche réellement de gauche qui passerait devant la gauche sociale-libérale qui n'est plus vraiment de gauche, qui est celle d'Emmanuel Macron. Par orgueil, par histoire, par refus de Mélenchon d'être dupe, par refus de Hamon d'en rabattre parce qu'enfin il y est arrivé, par refus de la mouvance de la gauche rouge de se laisser avoir une nouvelle fois par la social-démocratie en peau de lapin ou par refus de la social-démocratie revivifiée de se faire absorber par les rouges, eh bien ils n'ont pas réussi à se mettre ensemble. N'oubliez pas que les succès historiques de la gauche, je ne parle pas de François Hollande, je parle de la gauche authentique réelle quand elle avançait dans les années 70, avant même l'élection de Mitterrand, passait par l'union de la gauche. Ce fantôme, l'union des forces populaires, comme on disait dans les journaux communistes, était là, il est brisé. Hamon n'a pas la moindre chance, il ne happe pas l'électorat de Mélenchon. Mélenchon n'a pas la moindre chance. S'il ne convainc pas l'électorat de Hamon qu'une nouvelle fois, les socialistes sont un leurre. Non, c'est leur histoire.
L'image du week-end était terrible.
Ils le savent, l'un et l'autre. Ils racontent peu ou prou la même chose, plus républicain 48 heures pour Mélenchon, plus gauche des années 70 pour
Hamon. Pourquoi c'était terrible ce week-end ?
Parce qu'on a vu là, en puissance sur deux journées, ce qui risque de se passer après le premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le pari de Mélenchon qui est d'espérer arriver juste devant Hamon pour créer un Podemos à la française, surfant sur les ruines d'un PS qui serait condamné à éclater au lendemain du premier tour. Mais c'est limpide. D'ailleurs, dans les équipes de Hamon et de Mélenchon, c'est très pour eux, ils se connaissent par cœur.
Bien sûr, oui.
Pascal Cherki, ils ont fait des motions communes. Alexis Corbière, ils se connaissent par cœur. Et ils savent que c'est ça qui motive aujourd'hui l'absence de main tendue de Mélenchon. C'est d'arriver à cette fin-là. Donc l'éclatement du PS et la recomposition.
Il y a un certain nombre de gens qui ont envie que le PS crève. Macron, Valls. Ouais. Encore que Macron s'en moque un petit peu. Mais Valls intéresse que le PS tel qu'il est à crève. Hamon est la dernière chance ou la dernière ruse d'une vieille machine qui s'appelle le Parti Socialiste.
Alors Michel Durvoy, justement, on se souvient de, malgré leur divergence et leur incapacité à s'unir, il y avait une sorte de pacte de non-agression. Tacite entre les deux, entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, notamment quand on l'exercice qu'on va connaître ce soir, de se dire oh, « non, je vais pas t'agresser ».
Mais je pense qu'ils n'ont pas intérêt à s'agresser. Mais enfin, bon, la lutte finale, je pense que va se terminer en petite finale, pour reprendre l'image footballistique de tout à l'heure. S'ils s'agressent, ils s'épuisent tous les deux encore plus. Je pense qu'ils vont essayer, au contraire, de gagner des points, de marquer des points, parce qu'ils sont ils visent des électorats qui sont, pour une part, les mêmes que ceux de Marine Le Pen. Donc, moi, je m'attends à ce que, sur le terrain du social en particulier, ils tirent tous les deux dans le même sens, c'est-à-dire contre Marine Le Pen, dans l'espoir que l'un double l'autre ou que l'autre reste devant l'un. Voilà.
Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Je ne suis pas tout à fait sûr de la cible ce soir.
Oui, mais il y aura les deux. Mais sur le terrain social, je pense que Marine Le Pen va être leur cible.
Vous avez tout à l'heure parfaitement bien résumé le long discours de Jean-Luc Mélenchon avec la désignation de ses deux adversaires. La nation ethnique, on voit bien que ça la cible Marine Le Pen. Quant au parti de l'argent, on voit bien qu'il y met et Macron et Fillon.
Oui.
Bon, c'est ça qui va se passer ce soir, évidemment. Et dans le même temps, il évite de parler d'Hamon. Puisqu'il s'agit de gagner les électeurs d'Hamon
pour passer devant.
Il y avait un mot, il y avait un seul mot. À l'époque de Mitterrand, les socialistes de Mitterrand disaient nous serons unitaires pour deux. C'est-à-dire que même quand le PC de Georges Marchais leur tapait dessus, il n'y avait jamais d'agressivité parce que sinon on ne peut pas capter l'électorat d'un partenaire qu'on agresse.
Les informés de France Info, on va continuer à parler de ce débat ce soir avec d'autres invités puisque Michel Hurvoy doit nous quitter, hein, parce que vous aussi vous allez suivre pour Ouest France. D'ailleurs, la une de demain, ça sera, j'imagine, sur le débat.
Et il n'est pas encore venu.
Merci beaucoup, Michel Hurvoy, les informés de France Info. On revient dans quelques minutes.
Et si je profitais de la nouvelle Livebox Pro pour mon business?
Moi, avec la Livebox Pro d'Orange, je réponds aux mails de mes clients dans tout l'atelier grâce au super Wi-Fi.
Pas mal. Mais moi, grâce à ma nouvelle Livebox Pro, je peux envoyer toutes les photos du studio à mes clients.
Mais moi, avec la Livebox Pro, je connecte mon TPE directement à Internet.
TPE, travailleur au physique extraordinaire?
Non.
Avec la nouvelle Livebox Pro d'Orange et la fibre 100% fibre, profitez du très haut débit pour votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
Ah tiens, j'ai revendu ma Mini.
Pourquoi ?
J'ai trouvé mieux.
Mais non.
Toit au vent, GPS, Bluetooth, radar de recul.
Ok, ok, t'as hérité.
Non, 295 euros par mois.
Mais c'est quelle voiture ?
L'édition Mini Shoreditch.
D'accord.
Vous aussi, surprenez vos amis avec l'édition spéciale Mini Shoreditch à partir de 295 euros par mois, sans apport sur 36 mois, entretien inclus. Menez. Exemple pour l'édition Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée. Valable jusqu'au 31 mai 2017 sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
La perturbation arrivée par la Manche va progresser sur le nord-ouest, le nord cette nuit. Demain matin, on la retrouvera de la Charente et des Landes vers la Lorraine, le nord de l'Alsace avec des pluies. Elle gagnera Midi-Pyrénées, l'Auvergne, la Franche-Comté l'après-midi. Avant l'arrivée de la pluie, beaucoup de nuages, de belles éclaircies quand même, du Languedoc jusqu'au sud des Alpes, avec un bémol pour la Côte d'Azur et la Corse. Et puis sur le nord-ouest, la région parisienne jusqu'à la frontière belge, des nuages, quelques averses, mais aussi des éclaircies très belles l'après-midi vers le Nord-Pas-de-Calais. Encore du vent sur les côtes de la Manche. Il fera souvent 6 à 10 degrés le matin, 11 degrés à Lille l'après-midi, 12 à Paris, Nantes, Dijon, 14 à Toulouse, 15 à Lyon et encore 20 degrés à Montpellier et Marseille.
Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, la vie devant soi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Paul Ferrier, bonsoir.
Ils seront 5 sur 11 dans l'arène politique. Le premier grand débat de la présidentielle ce soir sur TF1 est retransmis sur France Info. Début dans une demi-heure avec une scénographie un peu différente de d'habitude, Simon Soubieux.
Pendant les primaires, les candidats étaient côte à côte et face aux journalistes. Ils seront ce soir disposés en cercle et face à face. Le décor du plateau très sobre, pas de bleu ni de rouge, plutôt du beige et du gris sans connotation politique. Pour commencer, chaque candidat aura 1 minute 30 pour répondre à cette question « Quel président comptez-vous être ?». Même système pour la conclusion, l'un après l'autre, les 5 candidats s'adresseront aux Français pendant 1 minute 30. Entre les deux, l'émission sera découpée en 3 parties. La première très vaste sur le modèle de société allant des institutions à l'immigration en passant par l'écologie. Deuxième bloc sur l'économie, travail, protection sociale, fiscalité et commerce. Puis les 5 candidats débattront des questions géopolitiques et internationales. À chaque question des journalistes, un candidat aura 2 minutes pour répondre, mais au bout d'une minute 30, ses concurrents pourront le couper et intervenir. Un modèle bien plus dynamique qu'au primaire pour attirer les téléspectateurs.
Pour France Info. L'Église française au cœur de nouvelles révélations, une enquête de journalistes associés à Mediapart et France 2. Selon les journalistes, 25 évêques français, dont 5 toujours en poste, ont couvert pendant des années 32 prêtres auteurs d'abus sexuels. Les journalistes ont dénombré 339 victimes présumées pour lesquelles la justice n'a jamais été informée. Et pour permettre aux prêtres pédophiles d'échapper à la justice, l'Église, depuis 1990, a déplacé plus de 90 prêtres selon les journalistes. La Conférence des évêques de France se refuse à tout commentaire. Les dons de l'édition 2016 du Téléthon en recul. Près de 93 millions d'euros ont été récoltés selon le bilan final. C'est près d'1 million de moins qu'en 2015. La banque suisse UBS, soupçonnée d'avoir mis en place un vaste système de fraude fiscale, renvoyée devant le tribunal correctionnel. La banque UBS est soupçonnée d'avoir démarché de riches clients en France pour ouvrir des comptes non déclarés en Suisse entre 2004 et 2012. Dans un communiqué, la banque suisse conteste, je cite, les allégations et les qualifications juridiques qui ont été retenues. Et puis à l'étranger, la chancelière allemande Angela Merkel hausse le ton contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, elle a demandé à la Turquie de cesser de prêter aux dirigeants allemands des méthodes nazies. Le président turc a réitéré ses propos visant clairement cette fois la chancelière allemande après la polémique sur les mythiques pro-Erdogan annulés en Allemagne. Angela Merkel a menacé d'interdire les interventions des responsables turcs sur le sol allemand. 20h33, les informés.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et en attendant le débat, ils débattent, voilà. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le journaliste à Slate et Vanity Fair, Claude Haskolovitch, également auteur d'un livre sur la gauche française, hein, qui s'appelle le Comment se dire adieu. C'est publié chez Lattès. Il y a également à ses côtés Liaël Gauche, chef du service politique de France Info, François Dorcival de Valeurs Actuelles, et nous recevons également, en cette dernière demi-heure, Antoine Bueno. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes écrivain, vous êtes aussi humoriste. Et votre dernier livre, on en parle beaucoup, puisqu'il s'intitule « Nos votes manifestent pour l'abstention ».
Oui. Voilà,
aux éditions. Autrement, alors c'est vrai que dans un instant, on parlera des candidats qui ne sont pas invités à ce débat, puisque ce soir, vous savez, ils sont au nombre de 5 et 6 autres restent sur le carreau. Mais surtout, il n'y a aucun représentant de ce qu'on appelle le premier parti de France, à savoir l'abstention. 16,03 en 2007, 19,66 en 2012. On l'estime à près de 20% cette année. Alors, vous, Antoine Bueno, vous espérez qu'elle soit plus massive, en fait?
Ah oui, absolument. Moi, j'appelle très, très fermement, fortement à une abstention encore plus massive. Mais contrairement à ce que le titre de mon livre pourrait faire penser, c'est pas parce que je suis un agité de l'abstention, un illuminé, un énervé, pas du tout. Ça procède d'une analyse qui est une analyse parfaitement cartésienne, rationnelle du système représentatif. Je suis parti en quête de l'utilité du vote et hélas, malheureusement, je suis reparti bredouille. Je ne trouve pas que le vote ait une quelconque utilité compte tenu de la manière dont notre système institutionnel est organisé aujourd'hui. Et en revanche, j'ai trouvé quelque chose d'assez étonnant, c'est que l'abstention est réformatrice.
Alors justement, Yael Gauze, on voit très bien l'abstention, ça effraie toujours hein, aujourd'hui, notamment oui. Tous les candidats y travaillent, puisqu'on sent que l'adhésion n'est pas là sur certains candidats notamment. Mais est-ce que ça veut dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a juste une abstention qui est toujours un petit peu, on s'en fiche de ne pas aller voter, ou il y a une adhésion de l'abstention?
Il y a deux abstentions aujourd'hui. Il y a l'abstention, il y a voter avec ses pieds par colère, je reste chez moi et je vous emmerde. Et puis il y a l'abstention, la vôtre peut-être, qui est plus rationalisée, théorisée comme étant un acte politique fort, assumé en tant que tel. Mais on a fait un reportage, Thomas Bier a fait un dossier ce matin sur l'antenne de France Info, sur les abstentionnistes, et en fait on s'aperçoit que derrière le no-vote ou ce que fait Antoine Peillon dans son livre « Voter, c'est abdiquer », il y a des débats en interne. Il y avait une jeune fille qui disait « Ouais, c'est vrai, on n'est pas représenté, ça rime à rien d'aller voter, mais mon coloc, il m'engueule, il me dit « Je vais faire le jeu de Marine Le Pen si j'y vais pas ». Je pense que vous serez travaillé par cette question quand même.
Alors justement, vous, pour vous, l'abstention c'est contrer le Front National.
Oui, alors exactement. Évidemment, alors l'objection du Front National, moi je l'entends tout à fait. Elle est évidemment fondée. c'est une objection de bon sens et c'est la plus difficile à contrer. Je crois y arriver en disant que la stratégie qui est adoptée depuis que le Front National commence à avoir le crédit qu'on sait, c'est une stratégie, à mon avis, qui nous mène droit dans le mur, qui est de court terme, qui est la stratégie du vote utile, qui exonère les partis républicains de proposer de véritables réformes. Et c'est justement ça qui structurellement alimente le Front National. Moi, ce que je propose, c'est quelque chose qui n'a jamais, je crois, été tenté, c'est de regarder les électeurs du Front National dans les yeux et de leur expliquer que l'acte contestataire, l'acte protestataire par excellence quand on est appelé aux urnes, c'est pas de voter Front National, c'est de s'abstenir.
Claude Haskolovitch, vous l'entendez? Ça, justement, alors cette abstention, finalement, réfléchie. On a souvent dit l'abstention n'était pas réfléchie.
J'ai rencontré quelques électeurs du Front National dans ma vie. Ils ne ressemblent pas du tout à l'idée que s'en fait Antoine Bueno, sauf votre respect.
Oui.
Ils croient en ce que raconte le Front National. Ils sont pour la préférence nationale. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison. Ils sont pour la sortie de l'Union Européenne.
Oui.
Donc, il y a plein de choses. Donc, je ne crois plus du tout que le vote Front National serait un vote protestataire, anti-système, tout. Blague ça. Et donc, qui serait remplacé par l'abstention? C'est un vote d'adhésion. On en pense qu'on en veut. Je pense également que c'est un vote qui est entrer dans un certain consensus français, pour pour raconter très rapidement une histoire longue. Depuis que Jean-Marie Le Pen est parti, avec lui l'antisémitisme et la nostalgie des années 40, et qu'il a été remplacé par Marine Le Pen avec une joyeuse islamophobie, ou disons une prévention contre l'islam qui nous envahirait, bonjour François Dorcival, et Valeurs Actuelles, eh bien le Front National s'inscrit dans un continuum. On sort de la question musulmane, et j'en termine, des grands élus de droite, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, ont récemment fait passer une directive qui s'appelle, quelle honte, directive Molière, qui consiste simplement à interdire à des gens qui ne sont pas français ou qui ne parlent pas français de travailler en notre pays. Eh bien, la préférence nationale linguistique est déjà actée, rendue possible
on est loin de
par des gens de droite. L'abstention ne sert à rien. C'est en train d'être fait, le Front National.
Alors moi, j'aimerais être à votre place, Claude Askelovich, parce que vous avez rencontré 2-3 personnes qui votaient pour le Front National, et donc vous résumez tous les électeurs du Front National, ou 2-3 que vous avez trouvés. Laissez-moi
répondre. Non, ça fait 25 ans, un bouquin et des dizaines d'articles.
Ces gens-là...
Non, Antoine, vous ne le prenez pas de haut.
Pas du tout.
J'ai rencontré plus d'électeurs du Front National que tous les gens à cette table ici.
Et beaucoup, très très longtemps. Mais c'est tout à fait possible. Donc ça interdit.
Non, c'est même très réel.
Non, mais très bien, bravo, félicitations.
Non, c'est interdit de croire qu'ils ne croient pas en leur
Est-ce qu'on peut leur parler? Alors, est-ce que vous permettez qu'on puisse essayer de leur démontrer que le programme de Marine Le Pen ne conduit à rien? Est-ce que je dis n'importe quoi quand je dis que beaucoup d'entre eux, il y a quand même maintenant 30% de personnes qui pourraient voter pour Marine Le Pen?
Et ils y
que
croient.
Beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux,
Antoine
c'est vrai,
Bruno,
sans doute
Antoine
pas tous.
Bruno, s'il vous plaît, juste François Orcival, quand vous entendez ça, finalement, quelqu'un qui dit « moi je suis militant de l'abstention ». Aujourd'hui, alors qu'on fait en effet des messages nous-mêmes sur nos antennes pour dire il faut aller voter.
Non, mais la question en effet, c'est pourquoi je suis militant de l'abstention. Vous avez un grand nombre de gens qui disent je suis militant de l'abstention parce que j'estime n'être pas représenté, ou qu'en tout cas, l'opinion qui est la mienne n'est pas représentée. Et généralement, ceci va derrière une autre revendication, je cesserai de m'abstenir le jour où on aura changé le mode de scrutin et que nous aurons enfin un mode de scrutin à la proportionnelle où tout le monde pourrait se présenter, etc. Or, ce mode de scrutin à la proportionnelle, nous l'avons au municipal et au régional où l'abstention a tangenté les 50%. Donc, les explications intellectuelles des abstentionnistes sont tellement variées et tellement contradictoires que, en définitive, ce que l'on a eu comme résultat depuis 30 ans, c'est de faire monter
Antoine
le Front National
à 30%. François Dorcival a totalement raison. C'est pour ça que j'ai écrit ce manifeste.
Alors, justement, et ce soir, qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Vous allez le regarder, vous, ce soir?
Ah non, moi, pas particulièrement. Non, pas particulièrement, mais pour une raison extrêmement simple. C'est que, pour moi, on se trompe de problème en se focalisant sur l'offre politique. On ne parle que de ça. On ne parle que des candidats. Est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce que c'est un mauvais candidat? Est-ce qu'il va être vertueux? Est-ce que ça va être l'homme providentiel? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est notre système institutionnel. C'est la matrice qui génère ces candidats. C'est une matrice qui rend structurellement notre système incapable de réformer, fondamentalement conservateur.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40. Pierrick Bonneau.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, selon l'un des auteurs de l'enquête invité tout à l'heure de France Info. 25 évêques, 32 prêtres, 339 victimes présumées. Le site Mediapart publie une enquête édifiante ce soir. 25 évêques français auraient donc couvert pendant des années 32 prêtres, auteurs d'abus sexuels sur plus de 300 victimes au total. Le cardinal Barbarin aurait eu connaissance de 5 cas sans avoir averti la justice, selon Mediapart. Bouygues Travaux Publics, condamné à près de 30 000 euros d'amende pour avoir employé illégalement au noir 460 ouvriers polonais et roumains. C'était sur le chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche entre 2008 et 2012. 4 autres sociétés sont condamnées dans cette affaire. Sauf surprise, Marc Joulot sera lui aussi bientôt mis en examen. Marc Joulot, c'est l'ancien suppléant de François Fillon dans la Sarthe. Il est soupçonné d'avoir fait bénéficier la femme du candidat d'un emploi fictif et sera prochainement convoqué chez les juges. Dans cette affaire, je vous rappelle que François Fillon est déjà mis en examen, notamment pour détournement de fonds publics. Les civils pris au piège dans les derniers quartiers de Mossoul-Ouest, encore aux mains des djihadistes. Les forces irakiennes poursuivent leur avancée avec un objectif ô combien symbolique, la mosquée Al-Nouri. C'est là que le chef de Daesh, Aboubakr al-Baghdadi, avait proclamé son califat en Irak en juillet 2014. Et puis au moins 15 morts ce soir à Bagdad dans un attentat à la voiture piégée. 33 blessés selon un bilan encore provisoire. L'attaque a eu visé un quartier très commerçant de la capitale irakienne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors ce soir sur TF1 et également sur France Info, vous pourrez suivre le débat à partir de 21h. Ce ne sera pas une formule complète et non comme pour les galettes, puisqu'il n'y aura pas tous les candidats, hein, puisque Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Philippe Poutou, Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan ne sont pas invités. Et le plus colère là-dedans, eh bien, c'est le président de Debout la France. Il a quitté le plateau du 20h de la première chaîne du week-end. Il a fait le buzz sur Internet avec cette vidéo et continue à frapper sur la table jusqu'à avoir de la corne tellement il est énervé, Nicolas Dupont-Aignan.
C'est pas une chaîne de télévision aussi, quelle que soit sa qualité, qui doit sélectionner en avance les candidats. Je le dis, d'ailleurs, elle ne l'a pas fait, et j'insiste là-dessus, pour les primaires. Et si on prenait le critère, si on prenait le critère qu'a pris TF1 pour ce débat, les sondages, ni M. Hamon, qui était à 2%, n'aurait pu être le candidat socialiste, et vous ne le verriez pas ce soir, et ni M. Fillon à l'époque était à moins de 10%, à 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est choisi comme critère est un critère absurde.
Le candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, ce matin sur Europe 1, François Orsival,
vous vouliez dire. Pourquoi Nicolas Dupont-Aignan n'était-il pas à la primaire de la droite? Il cite la primaire de la droite comme exemple, il avait qu'à s'y présenter. On aurait vu son résultat. Mais ce n'était pas la peine de faire un coup de pub et de buzz pour dire « je quitte le
question,
studio ».
Une question, Yael Gauze, à propos de ces 6 candidats qui ne sont pas présents. Est-ce que ça veut dire, on dit souvent d'ailleurs un côté un peu péjoratif hein, et condescendant, petit candidat, mais est-ce que ça veut dire quoi? L'égalité entre candidats, c'est un leurre?
C'est pas un leurre. Il y a une égalité totale, mais c'est la loi qui le prescrit. C'est 2 semaines avant le premier tour. Là, les médias, audiovisuels, hein, je parle, doivent respecter un temps de parole égal. Mais là, aujourd'hui, TF1, et heureusement, c'est aussi la liberté de la presse, là, a fait ce choix de ne prendre que ceux qui sont au-dessus de 10% dans les sondages. C'est un choix de la rédaction, contestable ou pas, mais ils ont le droit, la loi le permet. C'est-à-dire que, je vous explique, Laurent Fabius a donné la liste définitive des candidats samedi matin, 11h30. Mais il faut que cette liste soit publiée au journal officiel pour que commence le lendemain la période dite d'équité, qui oblige pendant 3 semaines jusqu'au 10 avril à respecter une représentation à peu près conforme à ce que pèsent les candidats dans les sondages ou dans le vote précédent, que ce soit à peu près conforme à cette représentation. Donc là, on est lundi soir, TF1 n'est pas dans la période d'équité. Donc ils ont le droit.
D'accord, tout simplement.
C'est
tout. Antoine Moineau.
Mais c'est formidable, moi, je trouve tout ça, parce qu'il y a tout un tas d'artifices et puis on en crée de plus en plus pour nous faire croire qu'on est en démocratie. Ça, c'est le grand créneau. Il paraît qu'on est en démocratie.
Pour vous, c'est pas le cas.
Ah, c'est pas du tout le cas. Mais enfin, n'importe quelqu'un qui connaît un petit peu les sciences politiques sait que nous ne sommes pas en démocratie, parce que la démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est une forme de gouvernement. C'est soit le gouvernement du peuple par le peuple, c'est-à-dire que c'est toute l'assemblée du peuple qui gouverne, soit le tirage au sort.
Représentative ou pas, ça dépend de
Eh bien, justement, alors on a créé cette formule-là qui est complètement contradictoire, qui est la démocratie représentative, qui a été inventée comme un intermédiaire entre monarchie absolue et démocratie directe. C'est le système représentatif.
Comment vous faites une démocratie directe avec
66
millions
de Français, il y a un tas de choses, il y a les primaires et puis alors il y a tous ces petits candidats. Oui, ce sont des petits candidats qui sont, je veux manquer de respect à personne, qui sont les idiots utiles du système, qui font croire qu'effectivement il y a une énorme pluralité et que c'est un système totalement démocratique.
Alors Claude Asklovitch, est-ce qu'on est là-dedans? Parce qu'on se souvient que le Conseil constitutionnel avait durci hein, les conditions pour obtenir ces 500 signatures. Il y en a 11 cette fois-ci. On se souvient, bon, le record c'était 2002 avec 16 candidats, hein, notamment. Est-ce que finalement c'est trop, pas assez? Est-ce que c'est un leurre en effet pour vous? 6 personnalités qui sont là finalement à côté, on dit en gros vous comptez pour rien.
S'il s'agit de réserver la présidentielle à des gens, j'ouvre les guillemets, sérieux, ce n'est pas mon vocabulaire, pardonnez-moi, ça ne marche pas. La preuve, si un monsieur Asselineau a envie de passer 5 ans de sa vie à quêter des signatures, il les a à l'arrivée des candidats. Donc c'est une... On a un vrai problème, et là je rejoins Antoine Boineau. Ce qu'est devenu la 5e République, taillé pour le général de Gaulle, et encore c'était déjà très compliqué à l'époque, à un moment donné interdit tout débat démocratique. Il n'est qu'une seule élection. Une seule, l'élection présidentielle. L'élection législative nous est donnée par surcroît, je ne vous parle pas des autres. Et on s'étonne de l'abstention négative après. Je ne parle pas comme il y a de la bonne graisse et la mauvaise. Hein. Je ne parle pas de la bonne abstention de Boineau. Deuxièmement, si on s'excite sur les petits candidats, c'est parce que la diversité, la variété, le débat, la controverse, l'innovation, ce qui peut changer éventuellement la donne, un phénomène comparable à ce qui peut arriver autour d'Obama à un moment aux États-Unis ou si vous voulez dans un autre sens, de Trump. C'est-à-dire l'inattendu, mais qui révèle une partie du pays à lui-même, ne peut exister que dans cette élection verrouillée. Personnellement, la parole de Nicolas Dupont-Aignan, qui parle maintenant comme Marine Le Pen, en étant un peu plus garçon qu'elle et un peu plus ringard, ne m'apporte rien. Et en même temps, il a parfaitement raison.
Alors, c'est ça, justement,
il n'est pas plus illégitime qu'un autre dans ce système qui ne l'est pas.
Il y a le travail.
Et après, TF1 fait ce qu'il veut.
Il y a le travail qui était en dehors des radars médiatiques. Et Jean Lassalle, on l'a totalement.
Député du Béarn, en effet.
Totalement du Béarn. Il a raison quand il dit que les médias l'ont zappé, clairement, pendant un an et demi. Mais pendant un an et demi, qu'est-ce qu'il faisait?
Il marchait.
Il tirait les fruits de sa longue marche à travers la France, où il a été frappé à toutes les mairies. Ça crée
tout le monde marche dans cette élection. C'est incroyable. Emmanuel Macron, Jean Lassalle.
Non, mais voilà, donc il mérite ses parrainages. 708, c'est le cinquième à être le mieux
plus
parrainé.
Plus que Marine Le Pen.
Plus que Marine Le Pen, plus que Nicolas Dupont-Aignan. Après, on en pense ce qu'on veut, mais il a bossé, on l'a pas vu.
Et les médias l'ont aussi brocardé.
Et ça révèle le sentiment de dépossession qui peut exister dans une France qu'on dit profonde, horrible expression, mais à un moment donné, des gens, ça a pu jouer pour Asselineau, ça a pu jouer pour plein d'autres, une partie du pays, à tort ou à raison, ne se sent pas représentée par le jeu des appareils, même transcendée par la primaire.
Non, on peut pas tout dire, parce que cette polémique finit par être absolument grotesque. Je dirais qu'il y a un mois, dans un plateau comparable à celui-là, vous aviez Alexandre Jardin qui vous disait que naturellement, il serait au second tour. Et il n'était pas le seul à dire que naturellement, il serait au second tour. Tout ça est gentiment absurde. Je rappelle qu'à la première élection présidentielle en 1965, vous avez deux candidats contre le général de Gaulle qui ont fait moins de 1%. L'un s'appelait...
Alors, j'ai juste une petite question, Antoine Bonneau. Nicolas Dupont-Aignan ne sera pas ce soir. Il a trouvé refuge chez Cyril Hanouna ce soir. Touche pas à mon poste. Voilà. Alors oui, mais en même temps, voilà, ça veut dire que lui profite de son buzz actuellement qu'il y a. Mais c'est assez étonnant quand même.
Il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qu'il ne faut pas complètement évacuer. C'est celle du grand théâtre. Évidemment, tout ça est fait de posture, de jeu. Quand il quitte le 20h, il est colère, etc. Bon,
il n'est pas colère, il est préparé.
Il est rassuré. Voilà.
Il joue sans entrave.
De toute façon, ça, c'est pas une critique de fond. Mais la politique aussi est un grand théâtre. Il faut le pratiquer,
c'est vieux
le lire comme ça.
C'est vieux comme la Grèce antique.
Bien sûr, oui, absolument.
Et les démagogues de l'époque.
Oui, ça n'est pas un problème.
Qu'est-ce qu'ils veulent? De la télé.
Oui, mais alors, ça dépend aussi, parce que Yael Gozeske, ça participe, par exemple, quand on voit Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud dit très bien, moi, je n'ai pas contesté, parce que moi, je suis là pour contester, justement, ce système. Est-ce que, on a vu Marine Le Pen, ici, qui donne sa signature à Henri Guénaud, est-ce que finalement, c'est si important? Voilà, ces candidats, est-ce que ça montre une pluralité ou au contraire c'est un leurre?
Le
paradoxe des nouvelles règles du Conseil constitutionnel, c'était qu'on voulait de la publicité au maximum et des règles de parrainage qui devaient réduire le nombre de candidats. C'était quand même ça l'objectif implicite, c'était de rationaliser. Et quand on sait que son nom est publié en temps réel, j'ai parrainé un tel, ça peut dissuader certains élus.
Ça n'en a pas dissuadé.
Pas du tout. On est quasiment au même étiage d'élus locaux qui ont parrainé et on est à un candidat de plus qu'en 2012. Donc, échec au niveau rationalisation. Après, moi, je ne conteste pas le travail de terrain qu'ont fait dans l'indifférence générale ces petits candidats.
Allez, on va continuer à parler de ça, justement, du débat. Encore pour 10 minutes, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, les 5 candidats à la présidentielle au plus haut dans les sondages débattent ce soir. C'est à suivre à partir de 21h dans moins de 10 minutes. Débat organisé par TF1. C'est la première fois qu'une chaîne de télé organise une telle rencontre avant le premier tour d'une présidentielle. Pendant ce temps, un contre-débat, celui des autres candidats, a lieu ce soir sur Explicit via les réseaux sociaux. Il opposera seulement Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade. Le candidat du NPA, Philippe Poutou, devait y participer, mais il ne sera pas là. Il explique ce forfait de dernière minute par un empêchement lié à ses responsabilités syndicales. UBS sera bientôt jugé en France. La banque suisse est renvoyée en correctionnel pour des soupçons de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal entre 2004 et 2012. L'aboutissement de 5 ans d'enquête, 5 hauts responsables de l'établissement bancaire en France seront également jugés. Selon un porte-parole de la Commission européenne, tout est prêt pour le Brexit. La première ministre britannique Theresa May annonce qu'elle enclenchera la procédure pour faire sortir son pays de l'Union le 29 mars. Un sommet européen devrait être organisé 4 à 6 semaines après la notification de Londres. Le pape implore le pardon de Dieu au Rwanda. François reconnaît une nouvelle fois les manquements et les péchés de l'Église et ses membres durant le génocide rwandais en 1994. Le souverain pontife a reçu tout à l'heure pour la première fois le président Paul Kagame au Vatican.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste quelques minutes pour parler justement de la manière dont les médias ont abordé cette campagne présidentielle, puisque depuis le renoncement de François Hollande le 1er décembre dernier, on a tendance à dire que cette campagne nous échappe totalement, en fait, avec des revirements, des surprises à chaque instant. Les médias également ont tenté d'innover avec le débat de ce soir, de très nombreuses émissions le dimanche. M6, on s'en souvient, avec Karine Lemarchand a interviewé des candidats façon L'Amour est dans le Pré. Et hier, C8, c'était des enfants qui interviewaient 4 candidats dans une salle de classe. Bientôt, on verra un programme avec les enfants de Karine Lemarchand qui intervieweront les politiques dans une classe au milieu des champs. Donc hier soir, une question venue d'un enfant dans le contexte est apparue particulièrement rafraîchissante, posée par cet enfant à François Fillon.
Vous aimeriez bien que tous les politiciens s'habillent comme vous ?
C'est pas la même question, parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage. Ça doit être un lieu de discipline, et ça serait bien plus simple pour les parents si les enfants n'étaient pas sans arrêt en train de réclamer telle ou telle tenue, tel ou tel t-shirt de telle ou telle marque.
Voilà, ça c'était au tableau, donc une émission qui a été enregistrée avant l'affaire du costume de François Fillon.
Il a pas une veste arnise. Hein,
non, exactement, voilà. Juste une chose pour vous, justement, Yael qui regardait ça avec passion, hein, c'est un peu votre feuilleton à vous. C'est
J'ai pas le temps de te regarder, tellement il y en a.
Voilà, est-ce que vous avez trouvé que cette année il y avait un effort supplémentaire au niveau des médias, où c'est très difficile de renouveler le genre des émissions politiques?
Au-delà de ces émissions-là, ce qui me frappe, c'est que tous les jours il y a à peu près une association, une fédération qui accueille un grand oral des candidats sur le BTP, sur sur le diabétique, sur il y a une succession tous les jours. Moi j'ai l'agenda, on doit gérer un agenda colossal tous les jours à France Info pour tout couvrir. Et moi ce qui me frappe, c'est ce côté absolument zapping quotidien depuis 100 jours. Il y a à peu près tous les jours
un lobby
entre guillemets qui reçoit et qui convoque les candidats à tour de rôle.
C'est la version moderne du cahier des doléances, tout simplement. Il est normal d'ailleurs que la société civile, quelles que soient ses structures, interpelle sur telle ou telle problématique les candidats, et ça, à mon avis, c'est une preuve de santé du système.
Mais la difficulté, c'est le côté zapping, justement, vertigineux, qui fait que qu'est-ce qui imprime à la fin, quel est le moment où on se pose et on a effectivement 10 000 cahiers de doléances dans chaque domaine. C'est ça la difficulté.
Juste une chose, Laskolovitch, vous-même tout à l'heure vous critiquiez justement l'exercice du débat plutôt chaud que exercice citoyen. Est-ce que vous avez trouvé finalement qu'il y avait des émissions intéressantes dans cette campagne? Est-ce que même par exemple des émissions comme M6 ou là C8, ce qu'ils ont essayé de faire, des enfants ou Karine Lemarchand, ça peut être intéressant?
Il y a des moments de vérité, pour peu qu'on les décrypte, dans n'importe quelle émission. Là, ça peut arriver. Après, il y a plusieurs choses. Cette élection présidentielle arrive dans un moment de décomposition absolu du système, que Nicolas Sarkozy était renvoyé à ses études, que François Hollande, qui était l'incarnation même du système politique, n'ait pas été en état de se représenter, montre la décomposition. Deuxième élément de décomposition, et sans lui faire injure, ce dont on s'est rendu compte sur les légèretés, pour employer un mot juridiquement neutre, de François Fillon, sur le côté impuni des hommes politiques, incompréhensible pour le commun des mortels, participe de cette décomposition. Donc on est à plat. On est presque à ground zero, si j'ose employer cette comparaison. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est effectivement dans un moment où il y a un refus absolu de ce qui a été, d'où les lobbies, ou les interrogations, ou d'autres formes contre-médiatiques. Dernière chose, les candidats qui s'avancent propose de vraies ruptures. Macron, par exemple, venu de la gauche, propose d'en finir totalement avec l'impérium syndical. Il n'en a rien à faire, y compris de la CFDT. Macron est un retour à une gauche dure. Fillon propose d'aller au bout des idées de la droite. Marine Le Pen, qui est dans une rupture totale, en tout cas le prétend, n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Donc on n'a jamais été aussi près de la bascule. C'est peut-être le moment où l'abstention devient paradoxale, tout en étant compréhensible.
Il ne faut pas oublier non plus, parce qu'en fait, vous le disiez très très bien, mais tout a existé, sauf que c'était sur le papier, sauf y compris les examens oraux. Mais bien sûr, on a vu Nicolas Hulot qui faisait signer des manifestes. Aujourd'hui, ce serait de l'image. C'est l'immense moloch de l'image qui doit consommer heure par heure des images nouvelles. Et d'ailleurs, quand Mélenchon réunit son monde à la Bastille, quand Hamon le fait, lui-même sous son chapiteau, quand...
Chapiteau, c'est Bercy. Hein,
ouais, Bercy,
c'est un beau chapiteau.
Et quand Fillon le fait place du Trocadéro, il remobilise leurs militants. C'est du moral, mais c'est aussi de l'image.
C'est plein d'images pour la semaine, pour attaquer en force le débat du soir, effectivement. Absolument. Et c'est souvent des meetings pour les chaînes d'info aussi, les autres y compris, puisque dans une petite salle de province à 1000 personnes dans la salle, on est diffusé en prime time.
Mais les chaînes d'info qui sont estimables sont une réalité parallèle dans laquelle le monde politique a tendance à se mirer, ce n'est pas forcément
alors,
la logique.
Juste pour terminer,
si vous posiez la question sur ces nouvelles émissions, au tableau, tout voilà, ça, il y a deux choses différentes. Est-ce qu'elles sont agréables et sympas à regarder? Oui, à fond. Mais qu'est-ce qu'elles disent de notre système? Est-ce qu'elles ne sont pas dangereuses pour ce système? Concentrant encore plus sur l'anecdotique, à mon avis, on devrait au moins se poser la question.
Allez, merci beaucoup, Antoine Bueno. Votre livre, c'est donc Nos votes manifestent pour l'abstention sur les éditions. Autrement, si jamais vous voyez Antoine Bueno dans un bureau de vote le 23 avril, vous envoyez la photo à France Info, bien sûr, on la publiera sur notre site. Merci également à Claude Askolovitch, donc Slate et Vanity Fair. Et je rappelle votre livre, Comment se dire adieu à propos de la gauche française, et c'est publié chez Lattès. Merci à Yael Gauss, bien sûr, qu'on retrouve tous les jours. Maintenant, il dort ici. De toute façon, Yael, voilà, il suit la campagne Passion. Et merci François Dorcival. Les informés, on revient demain. N'oubliez pas le podcast sur franceinfo.fr et le débat d'ailleurs de la présidentielle, le premier. C'est à suivre dans quelques minutes sur France Info.